ce moment-là où je me suis dit, je crois en moi, je crois en ce que je veux, et donc je vais arrêter de me laisser trimballer, et je vais prendre ma vie en main, je vais prendre les choses en main. Ce moment-là, je pense, a été vraiment décisif, parce que l'année qui suit, bien sûr, il y a eu un petit peu de galère financière, etc., mais c'est là aussi où je me suis plus sorti les doigts pour y arriver, tu vois, concrètement, parce que j'ai pris cette décision de croire en moi, d'y aller, j'ai osé prendre ce risque. J'étais tellement décidé, j'avais tellement de conviction, avec une telle conviction, ça a fait que ça a marché.
Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec Le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence.
Salut Pierre.
Salut Alec.
Comment tu vas ?
Ça va super bien, merci, et toi ?
Écoute, en excellente forme, ça me fait super plaisir de pouvoir faire cet épisode avec toi. Pour donner du contexte un petit peu à celles et ceux qui nous écoutent, du coup, effectivement, Pierre, tu es pas uniquement coach, t'es pas uniquement dans l'industrie du coaching sportif, mais tu as mis en place un système, un écosystème qui aide justement les personnes, les hommes en particulier en surpoids, à pouvoir créer des transformations physiques assez dingue, en surpoids ou qui ont le désir justement de s'améliorer physiquement avec l'écosystème Papa in Shape. Votre ascension est assez fulgurante, ça fait maintenant 1 an et demi que vous avez lancé ce business et tu as toi-même connu une transformation physique remarquable. Tu as une vision aussi de ton business qui est assez intéressante, des résultats qui sont fous, une vision des objectifs aussi qui est intéressante. Il y a pas mal de tips, de secrets, je pense, qui vont sortir de cet épisode. Je pense aussi qu'on va pouvoir mettre le doigt sur certains déclics qui ont fait la personne que tu es aujourd'hui de par ton parcours personnel et ton parcours entrepreneurial et donc apporter énormément de valeur à celles et ceux qui nous écoutent. Donc pour ça, merci d'avoir accepté mon invitation et aussi pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, plus concrètement que ce que je viens de faire, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît ?
Top, écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Avant de me présenter, moi je voudrais en profiter de passer sur ce podcast, Alec, pour te remercier déjà d'avoir créé ce podcast, pour toute l'énergie et la qualité que tu mets dedans, parce qu'on va sûrement y revenir justement dans mon histoire. Mais le fait d'avoir l'histoire de personnes qui ont réussi avant nous et de s'en rapprocher avec autant de détails, de connaître les déclics, c'est quelque chose, moi, qui m'a permis beaucoup d'avancer et d'en arriver là. Donc je souligne vraiment l'importance et l'impact qu'a ce podcast. Donc, je voulais te remercier ici. Et d'ailleurs, je pense que la meilleure façon de te remercier, ce serait d'aller mettre un petit 5 étoiles tout de suite sur le podcast. Au moins, quand on entendra la voix d'Alec avec le petit jingle qui nous propose d'améliorer notre karma, on se sentira bien. On se dira, je l'ai fait.
Exactement. Merci pour ça, tu vois, tu m'en avais pas parlé. Merci pour la petite surprise autour de ça. Et c'est vrai que ça fait vraiment... C'est l'objectif derrière chaque épisode du Déclic. Et merci de le mettre en lumière. C'est encore plus puissant quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Donc, merci pour ça. Excuse-moi, je t'ai coupé. Est-ce que tu viens de présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ?
Yes, comme tu l'as dit, j'ai fondé Papa in Shape avec Thomas, mon associé, il y a maintenant 1 an et demi. Et en fait, pour comprendre d'où ça vient, l'histoire de Papa in Shape, c'est que j'ai moi-même une histoire de transformation physique, comme tu le disais, et aussi une histoire avec l'entrepreneuriat, parce que j'ai toujours été passionné de ça. Donc, pour mieux comprendre, et il y a déjà des déclics dans cette transformation physique qui sont intéressantes. Moi, j'ai toujours été toute la première partie de ma vie, la moitié de ma vie, voire même un peu plus, j'ai toujours été en surpoids, je suis même allé dans l'obésité. Ça a toujours été quelque chose dont j'ai essayé de me débarrasser, parce que forcément il y avait beaucoup de frustration autour, je me sentais mal par rapport à ça. Et donc j'ai essayé énormément de méthodes, de choses pour atteindre cet objectif, de régime, de méthodes qui passaient. Malheureusement, j'ai jamais réussi à avoir les résultats que je voulais parce que à chaque fois, je perdais du poids, je le reprenais, je faisais le yo-yo jusqu'à un moment en fait où il y a eu un genre de double déclic où je suis allé chez mon médecin, j'étais avec ma mère, je me souviens, et je lui ai demandé comment je peux faire pour perdre du poids, et là il m'a dit un truc, il m'a dit écoute, toute ta famille est en surpoids, tu as 4 oncles qui sont en surpoids, ton père est en surpoids, ton grand-père est en surpoids, donc voilà, c'est un peu dans tes gènes, tu peux pas y faire grand chose, fais juste un petit peu attention pour pas que ça devienne trop grave pour ta santé, mais voilà. Et ça m'a frappé parce que je me suis dit waouh, il est en train de me dire que c'est une fatalité et que je peux rien y faire. Donc là, à ce moment-là, j'ai vraiment pris une décision d'aller chercher moi-même, d'aller me former moi-même, d'aller comprendre moi-même le sujet, comment fonctionne le corps pour pouvoir atteindre cet objectif et vraiment perdre les kilos que je voulais perdre et atteindre le physique que je voulais. Et puis, en même temps, en plus, je crois que j'en ai eu marre d'en avoir marre de pas être respecté justement par rapport à mon corps, que ce soit à les amis, mais aussi à ma copine de l'époque qui me disait « Non, mais t'es très bien comme ça, j'aime bien ton corps comme ça », mais à côté qui me trompait avec un mec qui avait le six-pack, tu vois. Donc ça a créé un genre de double déclic. À ce moment-là aussi, je commençais à voir quelques vidéos, à quelques contenus sur le développement personnel. Donc, je commençais à voir la perspective du fait qu'il y a des gens qui accomplissent des choses qui paraissent extraordinaires et c'est possible. C'est possible d'aller accomplir des choses. Donc, je me suis passionné pour le sujet vraiment à fond. Et en un an, j'ai perdu 30 kilos. C'était le surplus de poids que j'avais. Et j'ai atteint vraiment un corps qui me plaisait beaucoup plus. Et je continue de travailler sur mon corps parce que c'est devenu une passion. Et à ce moment-là, je me suis dit aussi, non seulement moi, je vais me transformer, mais un jour, j'aiderai d'autres personnes à se transformer. Et puis là, c'est ce qui est en train de se passer avec Papa InShape.
Ouais. Je rebondis sur ça déjà, dans le sens où il y a deux choses incroyables que j'ai envie de mettre en lumière. La première, c'est comme je le disais, on se connaît aussi dans le privé. Tu fais partie des quelques entrepreneurs que j'ai dans mon entourage ici à Dubaï et qui est un ami, quoi, tout simplement. On ne travaille pas ensemble, on ne fait pas de business ensemble, etc. Tu es un ami même quand tu me mets une raclée au squash ou au paddle. Et au-delà de ça, tu vois, je te connais depuis maintenant, je ne sais pas exactement, mais ça fait entre 6 mois et une année qu'on se connaît. Et récemment, tu m'as montré une de tes photos d'avant. Et je t'ai pas reconnu. Et deux, vraiment, j'ai encore la photo dans l'esprit. J'ai une mémoire photographique, mais au-delà de ça, ça m'a étonné. Non pas pour la photo en tant que telle, mais pour la personne que tu es aujourd'hui. Et franchement, pour ça, déjà, bravo. Parce que tu incarnes parfaitement ton message. Parce que clairement, aujourd'hui, tu as un meilleur physique que 99,9% de la population mondiale. Et certains se battent certains se battent des semaines, des mois, des années pour réussir à avoir un physique comme tu as et incarner la confiance en toi que tu incarnes grâce à ton physique, mais aussi grâce à ton mindset, ta personnalité. Et pour ça, bravo par rapport de où tu viens. Ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Et le deuxième point qui est très intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est en fait, tu as fait avec ton environnement lié du coup à l'obésité et lié du coup à ta volonté d'aller chercher à l'extérieur tes propres recherches, ce que n'importe quel individu qui est dans un environnement qui n'est pas propice à son épanouissement personnel, à son développement personnel ou à la création de son business devrait faire. Je m'explique. Mmh. Imaginons, tu es entouré dans ta famille, tes amis, tes copains, tes collègues, ta copine, etc., de gens qui sont salariés, qui disent l'entrepreneuriat, c'est tous des cons, ils exploitent les salariés, c'est difficile, c'est compliqué, c'est risqué, ne fais pas ça, garde ton salaire, trouve un bon travail, fais des bonnes études, fais des bons diplômes et ne le fais pas. Eh bien, t'as ceux qui vont écouter ça et qui vont malheureusement être limités par ça, et t'as ceux qui vont sortir de leur zone de confort, sortir de leur environnement, supprimer leur environnement négatif par volonté et par envie d'aller chercher plus. Donc pour ça, déjà un bravo aussi, mais surtout, c'est important de le souligner et de le mettre en lumière. On reviendra sur certains sujets autour des déclics, autour de tout ça, mais Papa InShape, est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est quoi le business model exactement? Qu'est-ce que vous proposez? À qui? Comment est-ce que vous le délivrez? De façon à ce que ça donne plus de clarté aussi à celles et ceux qui nous écoutent, premièrement, puis deuxièmement, pour aller plus en profondeur sur le business, parce que le but, c'est aussi de mettre en lumière justement comment certains business sont opérés et des pépites qui pourraient être implémentées dans le business de certaines personnes qui nous écoutent.
Yes, carrément, avec plaisir. Déjà, en fait, on a construit Papa InShape d'un, d'un constat que moi-même j'ai eu dans ma transformation, et aussi Thomas a eu une transformation physique assez impressionnante, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que lui n'arrivait pas à prendre du poids et il a réussi à en prendre, ce qui fait qu'on combinait les deux expertises assez bien tous les deux. On est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui il y a plein de méthodes sur le marché et qu'en fait c'est au client de s'adapter à la méthode. Donc c'est-à-dire qu'on va vendre un programme, on va vendre une façon de faire, et le client doit s'adapter à cette façon de faire. Sauf que ce que j'ai compris moi dans ma transformation, c'est que on est tous différents, on a tous des petits plaisirs différents, on a tous des façons de fonctionner, des quotidiens différents, des challenges différents au quotidien, et donc souvent il est très difficile d'aller adapter un programme à quelqu'un parce que le programme est fait un peu pour tout le monde, et donc la personne doit se démerder pour l'intégrer dans son quotidien. Donc en fait, on a inversé les choses. C'est-à-dire qu'en fait, on part de la base du client et on lui demande au tout début, on fait une première semaine où on va analyser son quotidien, on va lui demander de tout noter, tout simplement, pour comprendre son quotidien, ses challenges. Et derrière, en fait, le coach va venir lui apporter des solutions à ses challenges. En appliquant aussi le principe du 20-80, ce qui permet de faire gagner du temps parce que beaucoup de personnes, quand ils veulent perdre du poids, se mettent à faire des actions massives dans certains sens, et ce n'est pas forcément les actions qui vont être les plus pertinentes, qui vont être les plus impactantes pour le résultat. Donc nous, on va lui dire, mets ton attention là, arrête de mettre ton attention là et de te frustrer en te privant de ça, mais mets ton attention là, c'est là où tu vas aller chercher des résultats. Et du coup, on a quelque chose, on a un accompagnement qui va s'adapter parfaitement au quotidien des personnes, et c'est ce qui fait que ça va tenir sur la durée, en fait. Parce que tous les régimes, moi, que j'ai pu suivre avant, sont des choses que, c'est bien, je les ai suivies. Pendant le régime, je perdais du poids. Une fois le régime fini, impossible d'adapter ça à mon quotidien sur le long terme et de comprendre même pourquoi j'avais perdu du poids et comment mon corps fonctionnait. L'objectif, avec l'accompagnement qu'on fait actuellement, ça va être de faire l'inverse, c'est-à-dire que la personne, à la fin, elle va réussir vraiment à comprendre comment elle a perdu du poids, pourquoi, et elle ressort avec quelque chose de vraiment personnalisé, appliqué à sa vie. Et ça, pour moi, c'est une des bases du business. C'est focus client, focus résultat, tu vois. C'est bien, on voit beaucoup de marketing, comment améliorer son marketing, comment avoir un meilleur marketing, etc. Mais la réalité, c'est que si on a un bon produit, si on a un produit qui est excellent, qui apporte des résultats, derrière, le marketing va tout seul. Parce que on a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que chaque personne qui sort notre accompagnement nous fait un UGC. Donc un UGC, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une vidéo du client témoignage.
Ouais.
Et ça,
c'est un contenu généré par l'utilisateur. Ouais.
Exactement. Ça, derrière, ça fait le marketing tout seul.
Mmh. Ouais, complètement. Ouais. C'est intéressant. Donc, tu capitalises sur les témoignages clients. On en parlait d'ailleurs encore ce matin. Tu me disais que justement, tu étais focus. Et aujourd'hui, ton focus, c'était d'être focus. Et t'as raison d'ailleurs, t'as vraiment raison, c'est hyper important, mais focus pas que sur ton business, mais aussi focus sur un seul produit, un seul truc, une seule transversale dans le business. Parce que finalement, on pourrait être focus, prenons mon exemple, je pourrais être focus que sur entrepreneurs.com, mais dans entrepreneurs.com, faire un mastermind, faire un truc pour les débutants, faire un truc gratuit, faire un truc pour les avancés, faire un incubateur, et du coup, tu es complètement défocus. Et dis-moi en plus à propos de cette notion de focus, et selon toi, dans quelle mesure ça peut vraiment apporter à celles et ceux qui nous écoutent, et quelle est ta vision de la chose?
Pour moi, aujourd'hui, en fait, le monde se développe, il y a de plus en plus d'informations, il y a de plus en plus d'opportunités, de choses qui passent, et c'est de plus en plus dur d'être focus. Et très peu de personnes, je pense, font cet effort d'être focalisé sur une chose et vraiment de le faire bien, d'aller dans le détail et de le faire bien. Et en fait, du coup, nous, on met toute notre attention là-dessus, sur continuer de faire ce qu'on fait, parce que ce qu'on fait, ça marche, on a le product market fit, voilà. Donc, autant continuer de se concentrer sur ce qu'on fait, de le faire encore mieux, encore mieux, encore mieux. Et comme ça, on sait qu'on pourra jamais nous rattraper là-dessus. Parce qu'on met tellement d'énergie à rester concentré. Comme tu disais, effectivement, dans un seul et même business, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement d'objets brillants qu'on a envie d'aller développer. Le fait de rester focalisé sur les bases, c'est ce qui nous permet en fait d'avoir vraiment une grande qualité et de se développer. pour toujours avoir un bon produit. Et ça, c'est quelque chose qu'on a aussi en commun avec Thomas, c'est qu'on met toujours énormément d'attention, que ce soit dans le business ou dans notre vie perso, à être focalisé sur des bases simples qui peuvent paraître ennuyantes, mais en se focalisant sur ces bases-là et d'être meilleur encore sur ces bases-là, on est meilleur au final que d'aller un petit peu partout, tu vois, et d'essayer, enfin, de faire plein de choses à la fois et en fait de rien faire de bien. Il y a une phrase qui dit « Je n'ai pas peur des 10 000 coups que tu connais et que tu as pratiqué qu'une seule fois, mais j'ai peur à en mourir du seul coup que tu as pratiqué 10 000 fois », tu vois. Et ça, c'est quelque chose qu'on a en tête.
Ouais, non mais complètement, et pour aussi l'exprimer d'une façon différente, il est question ici de se dire je me développe dans une seule transversale et je capitalise sur l'inertie cumulée de mon travail semaine après semaine, mois après semaine, mois après mois, année après année, plutôt qu'à chaque fois développer de nouvelles transversales qui ne peuvent pas capitaliser sur l'inertie qui a déjà été créée. Et ça, c'est hyper important, c'est la stratégie petit produit où on peut en voir, même dans le monde de l'infoprenariat, Make Money Online, on en connaît des acteurs qui stagnent depuis maintenant plusieurs années entre 500 000 et 1 200 000 euros de chiffre d'affaires par an, avec certes une marge intéressante, mais qui vendent que des petits produits et qui du coup, on peine à chercher plus de chiffre d'affaires, plus de marge et aussi des vrais témoignages clients profonds et impactants, alors que d'autres qui se concentrent que sur un seul produit, une seule transversale, depuis des années et qui arrive année après année à aller chercher une croissance entre 15 et 80% de croissance annuelle avec de vrais témoignages, etc. C'est exactement pareil. Et en parlant aussi d'inertie et de long terme, vous, ça fait seulement un an et demi, et pourtant seulement un an et demi, vous avez déjà des très beaux résultats, une très belle infrastructure. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur votre chiffre d'affaires, le nombre de clients que vous avez pu accompagner, la marge que ça dégage aussi, c'est important parce qu'on parle de chiffre d'affaires mensuel, annuel, etc. Mais finalement, combien est-ce qu'il reste de marge ? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu plus de chiffres concrets sur ton business ?
Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
Yes, totalement. Effectivement, on a lancé en septembre 2021 on a appris que 15 personnes. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas lancé officiellement, on a pris 15 personnes pour d'abord construire l'accompagnement avec ces personnes-là. Et ensuite, on a ouvert nos portes donc, en décembre 2021. Sur la première année, en fait, on a accompagné plus que ce qu'on pensait. On a accompagné 800 clients à atteindre leurs objectifs en maîtrisant aussi le scale, ce qui est une chose qui est très importante. C'est-à-dire qu'on a senti à des moments qu'on pouvait scaler plus vite, plus fort. Mais on a toujours cette volonté d'avoir des bonnes bases saines et un bon produit et des clients qui soient satisfaits. Donc, ça nous est même arrivé de calmer un petit peu pour faire en sorte que tous les process se développent bien pour que derrière, il y ait une bonne satisfaction et que le scaling soit sain. Parce qu'on en connaît aussi pas mal des boîtes, tu sais, qui scalent très vite. Et puis, du jour au lendemain, elles ont disparu. Et nous, on a une vision vraiment long terme avec Papa in Shape. Donc, la première année, 800 clients. Nous, on est sur des offres qui vont de 1 500 à 3 000 euros, suivant l'accompagnement, suivant la durée et les besoins. Et donc, voilà, on a réalisé la première année 1 million de chiffre d'affaires sur la première année, ce qui était au-delà de nos objectifs. Donc, c'est excellent pour une première année. C'est un bon résultat. Maintenant, voilà, on n'est pas focalisé sur les chiffres, sur juste faire du CAF et juste faire du profit. Serait délicat de te donner de la marge parce qu'on a une marge brute, mais elle ne serait peut-être pas comprise, que ce soit par les personnes qui nous écoutent ou même les équipes, parce qu'en fait, pour le moment, on a un système avec Thomas, c'est qu'on réinvestit tout dans la croissance de la boîte. On réinvestit tout dans de meilleures compétences, dans fluidifier l'expérience client et l'expérience des personnes qui travaillent avec nous, qui travaillent avec Papa in Shape. Donc, on réinvestit énormément. Thomas et moi, la première année, on n'a rien pris, on ne s'est pas payé du tout. Au contraire, on a injecté. Et là, on se verse, tu vois, un plus petit salaire que beaucoup de personnes avec qui on travaille. Parce que vraiment, le but, c'est qu'on on réinjecte un maximum sur les bases, sur les fondations pour être encore meilleur et avoir encore une meilleure expérience utilisateur.
Ouais, c'est excellent. Et merci pour la transparence. Et franchement, déjà, bah, bravo. C'est vrai que le product market fit, comme tu l'évoques, il est là. 1 million la première année. Rares sont les structures qui peuvent se targuer d'avoir eu ce genre de résultat. Le fait est aussi que vous avez cette vision, malgré les chiffres, de ne pas vouloir vous payer la première année, de ne pas vous payer énormément la seconde et de réinvestir la quasi-totalité de ce qui est dégagé du business pour pouvoir continuer à avancer. C'est une très bonne chose. Mais tu vois, typiquement, là concrètement, en termes de chiffre d'affaires, maintenant, aujourd'hui, on se parle, on est le mars 2023. Par mois, ça tourne autour de combien, plus ou moins, de chiffre d'affaires?
On est entre 200 et 250 000 par mois.
Ok, donc ça veut dire que vous allez probablement x2 entre l'année 1 et l'année 2, ce qui est extraordinaire, même plus que x2 potentiellement. Ouais. Malgré un chiffre d'affaires aussi élevé, je ne connais pas votre marge, qu'elle soit la marge brute, qu'elle soit de 25, 30, 40% ou moins. Je pense qu'elle est quand même moindre parce que vous avez un modèle où vous avez des coachs, vous avez des gens à payer, etc. Donc, il y a de l'acquisition. C'est une industrie où ça coûte cher quand même faire de l'acquisition dedans. Mais il y a quand même, j'imagine, plusieurs dizaines de milliers d'euros de marge brute qui est dégagée chaque mois sans forcément la communiquer. Comment et dans quoi vous réinvestissez cet argent? Tu évoques le fait que vous réinvestissez énormément et la quasi-intégralité dans la croissance, dans la qualité, dans le produit, dans le suivi. Ça peut être intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent de savoir comment concrètement vous investissez, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui, au bout d'un moment, commencent à faire de l'argent, savent qu'ils doivent investir dans leur business, mais ne savent pas forcément dans quoi investir, à part augmenter les budgets pubs, par exemple, ou à part donner une petite augmentation à gauche à droite à ses collaborateurs, ou à part organiser un team building avec son équipe. Vous, dans votre cas, dans quoi est-ce que vous réinvestissez votre bénéfice dans le cadre de la croissance et l'amélioration continue de vos process?
Ouais, je vois très bien, je te remercie, c'est une super question. En premier lieu, on réinvestit dans les personnes avec qui on travaille, c'est-à-dire qu'on réinvestit dans des formations, dans des coachings, dans des meilleures compétences, parce que nous, c'est comme ça qu'on s'est développé, c'est en investissant sur nous-mêmes, donc on va investir aussi et aider les personnes à investir sur eux-mêmes pour justement monter en compétences toute l'équipe. Okay. Le but, c'est vraiment que chacun devienne meilleur et prenne encore plus de plaisir, parce que quand on est meilleur dans quelque chose, on prend encore plus de plaisir aussi. Donc, on réinvestit dans l'équipe, dans la montée en compétences et les formations de l'équipe. Deuxième chose, c'est toujours dans l'équipe, mais d'une autre façon, on va faire levier aussi sur des compétences d'autres personnes. On va investir sur tout simplement des nouvelles personnes qui vont rejoindre l'équipe, qui sont plus compétentes que nous sur certains domaines, pour pouvoir nous aider à développer mieux et plus vite les choses. Tout simplement, ça, c'est les deux principaux investissements. Et ensuite, bien sûr, dans tout ce qui est pour améliorer, comme je te disais, l'expérience utilisateur, que ce soit du côté client, que ce soit du côté de l'équipe, et pour améliorer du coup le produit, tout simplement.
Ok, je vois. Un autre point, c'est que vous êtes quand même dans une industrie extrêmement concurrentielle. Donc, qui dit concurrence dit aussi potentiel sur le marché, parce qu'il y a un marché, du coup, qui a vu beaucoup de choses, qui recherche des solutions qui peut-être parfois n'ont pas apporté satisfaction aux personnes. Tu vois, prenons ton cas, par exemple, tu racontais ton histoire tout à l'heure, tu disais, voilà, j'ai testé beaucoup de régimes à un certain moment de ma vie et à chaque fois, ça marchait un temps, puis je reprenais, puis ça marchait un temps, puis je reprenais ou ça marchait pas du tout, etc. Quels sont, d'expérience du coup, ce qui vous a permis de vous démarquer dans un marché aussi concurrentiel que l'industrie du sport?
Alors, Déjà, on s'est basé aussi sur nos compétences marketing de base qu'on a acquéries au cours de chacun 5 ans d'entrepreneuriat auparavant. C'est-à-dire que Thomas, mon associé, avait un infoproduit sur la natation. Il était devenu leader de son marché là-dessus. Et moi, du coup, dans l'e-commerce, où pareil, j'avais eu un grand succès dans l'e-commerce. Et donc, on s'est basé sur ça. Et en fait, on a vraiment adapté notre message à un type spécifique de personne à qui on voudrait parler. Et en étant spécifique, dans chaque chose qu'on fait, en étant spécifique, ça nous donne tout de suite la position d'expert. C'est-à-dire en étant niché, et donc on s'est très bien niché pour avoir cette position tout de suite d'expert. C'est-à-dire que si tu as 4 personnes qui te proposent de la perte de poids en face de toi, mais que tu en as un qui parle vraiment en fonction de toi, commenter les challenges que tu rencontres, tes habitudes, etc., tu vas plus aller vers lui parce que tu te dis qu'il comprend mieux ton problème. Et donc c'est exactement ce qu'on a fait. C'est ce qui nous a permis très vite d'avoir du résultat avec Pop InShape, quoi.
Ok, je vois. Et justement, tu parles de te nicher. Papa InShape, du coup, on entend papa, on entend InShape. Donc, vous aidez uniquement les hommes qui sont pères ou d'autres types de personnes?
Ouais, exactement. Papa InShape, déjà, c'est niché. Et après, derrière, on va encore ultra nicher. Mais effectivement, déjà, on n'accepte que les hommes. Et ça, ça peut être dur. On parlait du focus tout à l'heure, tu vois. Mais on a des demandes de femmes. Et quand tu as une entreprise, c'est dur de dire non à des clients. Mmh. Mais il faut avoir cette autodiscipline de se dire, je reste sur ce que je fais, je me concentre sur ce que je fais et je le fais bien. Et c'est ça qui fait qu'on arrive, on arrive à prendre une place très rapidement sur le marché, et une bonne place, parce qu'on reste concentré. Donc oui, on a de la demande de femmes, on a d'autres demandes. Mais oui, on accompagne du coup essentiellement les papas. Alors, moi, je ne suis pas papa, tu vois. C'est marrant, on m'a déjà fait la réflexion. Je crois que tu me l'as faite la semaine dernière. D'ailleurs, tu m'as dit, mais toi, tu n'es pas papa. Mais moi, je ne suis pas papa, tu vois. Mais par contre, j'ai pour objectif, tu vois, de changer les choses dans ma descendance, si je veux dire, et d'inspirer mes enfants derrière, tu vois. Je veux que quand j'ai des enfants, j'ai un corps en pleine forme, en pleine santé, et j'ai envie de leur montrer l'exemple. Pourtant, je ne suis pas papa. On va aller chercher des personnes aussi comme ça, tu vois, qui ont envie de se préparer. Le futur. Mmh. La différence, pourquoi on s'appelle Pop InShape, la différence, c'est qu'on va pas effectivement attirer juste des mecs, tu vois, de 18 ans qui veulent avoir les abdos pour aller faire le malin sur la plage ou en boîte, tu vois. Ça, c'est clair que ça va moins notre message va moins leur parler. Mais essentiellement, on a beaucoup de papas et aussi on comprend leurs problématiques au quotidien, et donc on apporte des solutions. Je parlais tout à l'heure du fait d'adapter la solution au quotidien du client et pas l'inverse, pas que le client s'adapte à notre solution. Bah, ça en fait partie.
Ouais. Ok, je vois. Et je t'avais fait deux remarques. Je t'avais dit, ouais, mais t'es pas papa. Et je t'avais aussi dit, est-ce que c'est un lien avec Thibaut InShape? Et du coup, je te repose la question, est-ce que ça a un lien avec Thibaut InShape?
Non, ça n'a aucun lien, on n'a aucun lien avec Thibaut InShape. Même si, en fait, Thibaut InShape a vraiment démocratisé le InShape, tu vois, qui est anglais, mais maintenant est compris par beaucoup de monde grâce à ça. Honnêtement, papa en forme, c'était pas super sexy comme nom. Papa InShape, ça sonnait super bien par contre. Donc, d'où le fait d'être allé s'appeler Papa InShape. Mais vraiment aucun lien avec Thibaut InShape.
Ouais. Aujourd'hui, comment est-ce que vous faites votre acquisition et comment est-ce que vous faites votre conversion? Est-ce que vous êtes plutôt sur YouTube Ads, Facebook Ads? Est-ce que vous avez une grosse chaîne YouTube organique? Est-ce que vous êtes influenceur sur les réseaux? Est-ce que vous faites tout avec de la publicité payante? Je connais plus ou moins la réponse et j'ai hâte que tu la partages, et aussi surtout de savoir votre canal de conversion, comment il fonctionne, parce que vous vendez une offre relativement chère. Donc j'imagine d'expérience que vous la vendez essentiellement avec des closers au téléphone, probablement, que soit il y a une VSL ou un webinaire. On pourra en parler pour celles qui nous écoutent de façon à ce que ce soit plus clair, que vous faites de la publicité parce que sinon vous n'auriez pas autant de traction et une capacité à scaler aussi rapidement. Mais voilà, tout ça, ce ne sont que des suppositions basées sur mon expérience personnelle, mais avec plaisir pour comprendre davantage du coup votre système acquisition-conversion, parce qu'on en parlait également aussi. Et tu mettais un point d'honneur sur le fait que vous avez un produit de qualité, et j'en doute absolument pas, parce que c'est vrai que c'est vraiment... c'est un des trucs qui fait que vraiment on peut se démarquer sur ce marché aujourd'hui qui est ultra concurrentiel, et c'est ce qui explique aussi beaucoup de vos résultats et les témoignages, etc. Mais aussi et surtout, je mettais en évidence que pour avoir de tels résultats et une croissance aussi rapide, vous étiez très probablement extrêmement bon en acquisition et en conversion, donc en marketing et en vente. Et tu m'as tout simplement confirmé clairement la chose. Donc dis-moi en plus à propos de votre... chaîne de valeur globale entre marketing et vente.
C'est pareil, sur ce domaine-là, on a appliqué un principe, c'est les bases et de rester concentré. Donc, c'est-à-dire qu'on a un tunnel, une chaîne d'acquisition, une source d'acquisition, un tunnel, il y a un truc, tu vois. On n'a pas commencé à se disperser, on ne s'est pas dispersé. Là, petit à petit, on va venir rajouter des petites choses pour mieux convertir, optimiser forcément parce qu'on a pas mal avancé. Mais on a un tunnel. Nous, on fait du Facebook Ads parce que j'ai eu pas mal d'expérience là-dedans avec un e-book tout simplement, un lead magnet. Derrière, on va pouvoir appeler tous nos clients pour faire, via ce qu'on appelle du setting, on va appeler tous nos clients pour faire un point sur leurs objectifs et voir si on peut les aider. Donc, ça qualifie aussi le lead s'il peut potentiellement devenir client. Ensuite, le setting qui envoie au closing et on close tout simplement. On a ajouté en cours de route une VSL, ce que tu partageais tout à l'heure. Une VSL, c'est une vidéo tout simplement qui va apporter de la valeur et aussi un appel à l'action qui va cadrer le prospect pour l'inviter à passer à l'action. Donc, on a une VSL maintenant, mais sinon, c'est assez simple. Hein. E-book plus VSL, on va dire. Setting, closing, et puis après on accompagne les gars au produit, quoi.
Magnifique. Ouais, c'est vrai que c'est super intéressant, et en termes de chiffres, je me rends pas compte dans ton industrie combien coûte le CPL en moyenne sur Facebook à l'heure actuelle en 2023, par exemple pour de la VSL. Donc, moi j'ai des chiffres sur du MMO, j'ai des chiffres comme ça, mais sur de la perte de poids francophone, j'arrive pas à m'imaginer. On est plus sur du 3 euros, 5 euros, 10 euros le lead, beaucoup moins cher, beaucoup plus cher. Ça peut être intéressant de comprendre.
Alors, de ce que j'ai entendu en discutant avec d'autres personnes aussi, pour te donner quelque chose de plus réaliste sur le marché global, on est plus entre 4 et 6 euros du lead, de ce que j'ai compris. Maintenant, nous, on arrive à avoir des leads qui coûtent des coûts par lead bien en dessous. Parce que justement, en fait, on met l'attention sur le produit. Donc derrière, en fait, on a énormément de témoignages, on fait parler nos clients. Donc et puis aussi, on est ultra niché, quoi.
Ouais, tout de suite le capital confiance justement des gens qui voient ça, ça crée une dimension dans laquelle voilà. Il n'y a pas le même travail à devoir fournir, il n'y a pas le même retargeting à devoir fournir. Tout de suite, les gens ont confiance, ont envie d'en savoir plus, ont envie de prendre des informations. Et puis en plus, que ce soit du e-book comme de la VSL, tu donnes de la valeur avant de proposer quoi que ce soit. Donc naturellement, les gens, ils ont accès gratuitement à de la valeur de qualité qui plus est, j'imagine. Ça va, j'imagine, dans la lignée du produit que vous vendez. Et naturellement... Et naturellement, ils avancent. Une autre question, c'est quoi les douleurs en général de ton avatar client idéal ? Je ne me rends pas compte, moi, des problématiques. Imaginons d'un père de famille, deux enfants, 41 ans, qui a pris un petit peu de la brioche, qui a envie de se remettre en forme. C'est quoi les douleurs principales sur lesquelles vous appuyez pour faire en sorte que le message leur parle ?
Bah, t'as déjà dit une partie. C'est vrai que quand on passe la quarantaine, en général, on a tendance à accumuler une brioche parce qu'on a des habitudes et une certaine identité qui fait que, avec un métabolisme et un système hormonal d'une personne de 20-30 ans, ça se passe très bien, on reste fin. Mais à partir de 40 ans, en fait, notre métabolisme a tendance un petit peu à ralentir. Notre production d'hormones n'est plus exactement la même, et là on commence à voir le résultat de nos actions, le résultat de nos identités, notre identité. Donc il y a ça, il y a accumuler la brioche aussi. Après, ça va dépendre des sous-niches particulières. Par exemple, on accompagne pas mal de cyclistes, par exemple. Donc, il va y avoir des douleurs qui vont être plus spécifiques aux personnes qui vont être passionnées du vélo. Mais ça peut être énormément d'autres choses. En général, c'est ça. C'est le fait de prendre un petit peu de poids, d'être plus essoufflé, de moins pouvoir jouer avec ses enfants, moins... Forcément, quand on prend un peu plus de poids aussi, on perd un peu confiance en soi. Donc, ça a un impact aussi dans la vie de couple. Toutes ces choses-là, en fait, c'est énorme. C'est énorme l'impact que ça peut avoir juste de se sentir un peu moins bien dans son corps, de se sentir un petit peu moins confiant. Et ça, en plus, c'est vicieux parce que ça se fait au fur et à mesure des mois, des années. On se sent de plus en plus mal, on ne s'en rend pas compte jusqu'à un point où on s'en rend compte vraiment, quoi.
Ouais, je vois complètement, ça fait du sens. Un autre point aussi, c'est selon toi, et après j'ai une autre question, plus par rapport à vous, c'est-à-dire Thomas et toi, ton associé, ouais. Selon toi, qu'est-ce qui fait le secret de l'ascension de Papa In Shape? Parce que voilà, en un an et demi, réussir à mettre ça en place, c'est quand même très beau. C'est quoi le secret de l'ascension de Papa In Shape?
C'est une super question. Je pense qu'elle vient dans l'histoire de comment on a créé Papa In Shape. Bon, déjà, comme je le disais, moi j'ai eu une transformation physique, Thomas aussi. On est aussi deux personnes qui sommes passionnées d'entrepreneuriat. Moi déjà au collège, j'avais vu des petits filons, je voyais que j'habitais près de la frontière belge, les clopes étaient moins chères, du coup j'achetais des clopes, je les revendais un petit peu plus cher. Après j'ai commencé à faire mes propres clopes, à avoir un pote qui travaille avec moi, donc déjà j'avais toujours eu ce truc là et Thomas aussi a toujours adoré l'entrepreneuriat. Et donc en fait à un moment, nous chacun on avait des business avec nos compagnes et à un moment, tu vois, on avait envie de sortir un tout petit peu de ça et d'entreprendre avec un pote, parce que entreprendre en couple, c'est génial, c'est une superbe expérience, mais aussi à un certain niveau, à un moment, ça crée aussi des frictions et on avait envie de se protéger par rapport à ça, de protéger nos couples en fait par rapport à ça, et puis aussi on avait envie d'entreprendre entre potes et d'envoyer quelque chose, quoi. Et en fait, si tu veux, au début avec Thomas, on n'a pas du tout lancé Papa In Shape. On a commencé par on est parti dans l'e-commerce par une marque de beauté femme, et en fait si tu veux, bon, comme toujours, déjà une des clés c'est de mettre les moyens et d'y aller à fond, de tout donner pour que ça marche, pas d'y aller avec un bâton pour voir si ça bouge, tu vois, vraiment d'y aller, je vais faire marcher les choses. Et donc c'est ce qu'on a fait avec cette première marque qu'on a lancée. Je me souviens, on était en vacances à Dubaï, on avait loué une super suite avec toute l'équipe de tournage pour tourner des super ads, des choses comme ça. Mais voilà, en fait les premières difficultés arrivent, les premiers challenges arrivent. Et on a une discussion avec Thomas, et ça c'est une autre clé, c'est la communication quand on est associé. La communication c'est juste capital, et on met beaucoup d'attention là-dessus aussi, pour communiquer, se dire les choses, jamais rien laisser sous le tapis. Et là on se réunit et donc on communique et on voit tous les deux qu'on n'a pas un enthousiasme fou et que on n'est pas dans l'énergie qu'on devrait avoir pour aller faire exploser une entreprise. Et c'est là où on commence à se poser des questions. Et je me souviens, on était allé faire un bowling avec Thomas et je lui posais les questions. Qu'est-ce qui a eu de l'impact dans ta vie? Et on s'est demandé qu'est-ce qui a eu de l'impact dans notre vie vraiment et qu'on aurait envie de partager et sur quoi on a une expertise. Il y avait deux choses. La première, c'était la transformation physique, parce que clairement ça a eu un énorme impact dans ma vie, ça a eu un énorme impact dans la vie de Thomas, et donc c'est vraiment une chose qui a eu un impact. Et la deuxième, c'était la liberté financière et géographique qu'on est allé se construire tous les deux et qui nous a permis de voyager, etc.
Ok,
on s'est dit ok, ouais. Excuse-moi, tu voulais me poser...
Non, j'ai cru que tu avais terminé, excuse-moi, c'est moi.
Du coup, on s'est dit, ok, on va partir là-dessus, on va partir sur la transformation physique parce que c'est quelque chose qui a eu un vrai impact dans notre vie et on sait qu'on va avoir un vrai, réel impact dans la vie des gens. Et quelque chose qui nous, c'est quelque chose qui nous, qui nous booste, qui nous transcende, tu vois. Et en fait, le fait de partir de cette base-là, d'une base avec une grosse vision, avec aussi, bien sûr, on s'est posé les questions, on doit aller sur un gros marché, un marché sur lequel on sait qu'on va avoir énormément de place pour se développer. Et ce marché-là, enfin, cette activité-là, ce Papa in Shape réunissait tous les critères, en fait. Et donc, on a lancé. Et en fait, le fait de s'être posé les bonnes questions en amont, tu vois, et d'avoir quelque chose vraiment pour lequel on est prêt à se transcender, c'est ça qui a fait que pendant un an, on a travaillé comme des malades. On a su dépasser toutes les difficultés parce que, en fait, les difficultés pour nous, c'était juste quelque chose à passer, tu vois. On avait une grosse vision, en fait. On a une grosse vision, on sait où on va, on sait ce qu'on apporte, on sait la place qu'il y a et la place qu'on va prendre. Et donc ça nous permet de passer toutes les difficultés parce que là on parle des beaux résultats, mais c'est pas que ça non plus. L'entrepreneuriat, on en a eu énormément de difficultés en un an, de challenges, mais ce qui a fait qu'on a su les résoudre, c'est ça, c'est la communication et une bonne base de l'entreprise, tu vois, une bonne vision.
Ouais, je vois, et c'est super intéressant parce que ça répond d'une certaine façon à la question suivante qui est OK, en un an et demi, on arrive à créer un business qui fait 200-250 par mois, plus la première année directement, tu fais 1 million. Donc, on pourrait se dire, waouh, ouais, c'est incroyable, c'est génial, c'est fou, c'est dingue, etc. La réalité, c'est que ça ne fait pas du tout un an et demi. C'est que ça fait 5 ans, 6 ans, 6 ans et demi, exactement, peut-être même plus, que voilà, vous êtes sur le marché, vous êtes dans le business, vous êtes sur le terrain, vous avez aussi dans votre entourage, j'imagine, des entrepreneurs qui ont aussi des business en ligne, qui vendent de la formation, qui connaissent ces industries. Avant, tu me disais, j'ai demandé autour de moi plus ou moins combien c'est le lead. Donc, j'imagine aussi que tu as des gens autour de toi qui sont acteurs de cette industrie. Tu me disais même que tu avais, dans le cadre d'une autre discussion, que tu avais créé un mastermind à un certain moment lorsque tu faisais du e-commerce. Donc, tout de suite, tu as compris la puissance de s'entourer et d'échanger avec des personnes qui, comme toi, bah, avancent par rapport à leur business. Et tu as fait la même chose aussi dans l'industrie du sport. Donc, ouais, il y a vraiment ce truc à mettre en lumière. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, mais que toi, comme Thomas, bah, voilà, vous avez aussi derrière un passif qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir ce genre de résultat.
Ouais, complètement. Tu fais bien de le souligner parce que des fois, ça peut paraître frustrant quand on se lance de voir d'autres personnes avoir des résultats ultra rapides. Et nous, on est là, on se dit, mais moi, je ne vais pas aussi vite. Et on commence à se comparer, ce qu'il ne faut bien sûr jamais faire, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et en fait, ça a été vraiment c'est l'évolution de notre identité au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de nos expériences, qui fait que sur Papa in Shape, il y a eu une belle croissance. Après, comme tu disais, ça peut paraître surtout une grosse croissance. Pour nous et pour tous au sein de Papa in Shape, c'est rien. C'est rien pour nous, on n'a encore rien fait. J'arrête pas de leur dire et ils me trollent des fois là-dessus. C'est que c'est que le début. On est vraiment qu'au tout début, tu vois. Parce que la vision, elle est bien plus grande. Mais tu fais bien de souligner ce truc de ça prend des années. Pareil, on pourrait dire que j'ai perdu 30 kilos en un an, mais au final, j'ai eu plein d'échecs avant. Ça faisait pas qu'un an que j'essayais, tu vois. Et ça, c'est important. C'est important.
Ouais. Ouais, complètement.
C'est plus sexy de dire que ça s'est fait en un an, hein. C'est clair.
Bien sûr.
Mais la réalité,
surtout que pour des marketeurs comme toi et moi, c'est extrêmement tentant. Du coup, c'est difficile de ne pas se retenir. un autre sujet aussi, c'est peut-être même qu'on mettra de 0 à 250 000 euros par mois en un an et demi dans son business sur le Teams Podcast. Donc, si c'est le cas, pardonnez-nous, mais on va essayer de s'abstenir. Au-delà de ça, un point.
Excuse-moi, je te coupe, mais je regardais un petit peu les podcasts sur YouTube qui fonctionnaient le mieux. C'est dur de s'abstenir parce que ouais. C'est là où il y a les meilleurs résultats aussi, quoi.
Mais clairement, tu vois, exemple concret. Hier, je sors un épisode du podcast sur YouTube sur l'investissement immobilier à Dubaï avec Investa. C'est une équipe au top. C'est des mecs qui ont autant des investissements des biens immobiliers, maisons, appartements à l'unité que pour des family office, des étages ou des immeubles entiers sur une journée. Il y a une valeur dans cet épisode qui est juste incroyable et qui rendrait riche la quasi-totalité des gens qui l'écouteraient et qui l'appliqueraient. Et pourtant, il fait moins de 1000 vues en 24 heures, alors que d'autres épisodes font 5000, 10000, 20000 vues en quelques heures dans certains cas. Et tu te dis, ouais, c'est fou, mais parce que c'est pas forcément putaclic, parce que ça intéresse pas tout le monde, parce que machin, parce ouais. que sur la miniature on n'a pas mis des gros billets verts ou des choses comme ça. Non, mais vraiment, hein, c'est incroyable. Donc, ouais, tu fais bien de le souligner également.
Clairement. Je t'ai coupé dans une question. Ouais. Est-ce que tu t'en souviens? Sinon, j'ai autre chose sur lequel je peux rebondir.
Alors, je m'en souviens très bien, mais vas-y, rebondis, parce qu'ensuite on va passer à un autre élément.
Il y a une autre chose que tu mettais en lumière juste avant, donc il y a le fait qu'effectivement on avait 5 ans d'expérience, voire même un peu plus sur l'entrepreneuriat. Il y a une autre chose que tu mettais en lumière, c'est que j'étais allé rencontrer d'autres personnes qui font ce que je veux faire. Et ça, c'est vraiment une chose qui est ultra importante selon moi. Et c'est pour ça que vraiment j'ai pris... vraiment soin de te remercier pour le podcast, parce que je souligne l'impact. C'est que j'ai investi moi-même énormément d'argent sur moi pour pouvoir faire des déplacements et aller rencontrer les gens qui ont ce que je veux. Et pour moi, c'est une de mes bases. Tu vois, je te le disais, je me concentre vraiment sur des basiques et je reste concentré là-dessus. C'est une de mes bases, c'est qu'est-ce que tu écoutes. Et en fait, quand tu as un objectif, la première chose à faire, c'est d'aller écouter quelqu'un qui a ce que tu veux et... encore mieux, qui est passé par là où tu es passé. Et ça, c'est quelque chose qui est basique, tu vois, mais qu'on fait trop peu. Tu vois, par exemple, quand je suis allé voir mon médecin pour perdre du poids, je me suis dit, oh, c'est la personne ressource. Mais pas du tout. En fait, mon médecin, il avait un ventre et il n'avait pas lui-même perdu du poids. Donc, ce n'était pas la bonne ressource. Le fait d'aller chercher les bonnes ressources, c'est hyper important. Et surtout, le fait de les voir, d'entendre les histoires, ça permet de se rendre compte, de banaliser dans notre cerveau que c'est possible. Et quand on commence à croire que c'est possible, on se met en action et on va chercher des résultats. Donc, c'est un point commun. J'ai plein d'histoires de déclics que j'ai eues justement grâce à des rencontres, tu vois. Juste le fait d'aller voir que c'est possible. Je me souviens quand je voulais devenir directeur d'un Carrefour Market. C'était mon ambition professionnelle quand j'étais étudiant. Et j'avais entendu parler, voilà, je commençais un petit peu le marketing de réseau, j'avais entendu parler de ça. Et je voyais des mecs qui disaient qu'ils faisaient plus d'argent que la moyenne, etc. Et un gars m'avait appelé sur LinkedIn et il m'avait parlé de son marketing de réseau et il m'avait dit, je lui avais partagé que moi je voulais plus, tu vois, je voulais aller chercher des plus gros revenus, je voulais plus pour ma vie, pour ma famille future, etc. Et il m'a dit, écoute, il y a un gars qui a un an de plus que toi, donc à ton âge, qui fait une conférence à Paris, j'étais jamais allé à Paris, hein. À Paris dans ce week-end, il fait entre 5 et 10 000 euros par mois. J'avais pas un rond, j'ai quand même pris un ticket, je suis allé tout seul à Paris, je suis allé le voir. Quand je l'ai vu et que je me suis rendu compte qu'il avait... il était normal en fait, c'est pas un extraterrestre le mec, et il fait vraiment 5-10 000, je suis allé le voir, je lui dis montre-moi, parce que moi j'y croyais pas, tu vois, parce que c'est comme sur internet, on voit plein de gens qui donnent des chiffres, mais on n'y croit pas. Il m'a montré, ça m'a frappé, je me souviens toujours de l'événement de ce moment-là, et je me suis dit, putain, c'est possible pour moi aussi, tu vois. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté énormément de petits déclics sur toute l'atteinte de tous mes objectifs.
Non, mais c'est clair, Et c'est hyper important, et tu vois, ça c'est un déclic que la plupart des gens ont, c'est que pendant un certain moment, ils se disent « non, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est trop beau pour être vrai, c'est si, c'est ça », jusqu'au moment où ils voient les résultats. Et je suis persuadé, aujourd'hui, chaque épisode du déclic fait, dépendant de l'épisode, entre 800 et 3000 vues, 3000 écoutes sur les plateformes, parfois plus. Parfois, ouais, non, rarement moins maintenant. On a de la chance, d'ailleurs, pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait, mettez les 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. Ça nous aide pour le podcast et ça nous permet d'aller chercher le podium.
Pour le coup, ça prend vraiment une seconde. Hein. Je l'ai fait récemment, je ne l'avais jamais fait. J'étais impressionné à quel point ça prend une seconde.
Ça prend vraiment une seconde. Ça dépend de ta rapidité à laquelle tu cliques sur les 5 étoiles, c'est vrai, mais ça prend une seconde. mais vraiment, c'est important. Et tu vois, la plupart des gens qui nous écoutent peut-être se disent « Ouais, baratin, ouais, non, c'est trop beau pour être vrai, ouais. » Et ils vont peut-être se le dire 20 fois, tu vois. Ils vont écouter jusqu'à 20 épisodes et ils vont se dire « 20 baratins. » Et un jour, ils vont croiser un dans la rue ou ils vont aller à une conférence ou ils vont voir un truc ou ils vont voir un dashboard sur une vidéo YouTube ou ils vont voir un post sur LinkedIn avec les résultats sous leurs yeux et se rendre compte de ça. Ou alors, voir que leur pote, contrairement à eux, à écouter attentivement et à appliquer et a eu des résultats. Et leurs potes, ils ne vont pas se dire « Ah ben, il est en train de me mentir. » Et je te rejoins souvent, c'est ça. Et j'avais une discussion avec quelqu'un qui est très, très, très pragmatique, cartésien, qui a fait des hautes études, etc., double master, doctorat, très intelligent, mais très, trop d'ailleurs, dans les règles. Et tu vois, il était dans un séminaire où je speakais et il avait payé sa place. 2000 euros, il y avait 3000 personnes dans la salle, il avait pris le truc VIP machin, 2000 euros, il était là en face et vraiment jusqu'à la fin de la journée, les deux jours, jusqu'au dernier moment, il se disait mais tout ce qu'on me dit là sur scène, c'est tous des mythos, tous des escrocs, tous du baratin, tous du truc. Et après, il m'a raconté ça et c'est quelques semaines plus tard, quand la personne avec qui il était resté en contact, à qui il avait passé deux jours, avait appliqué les trucs du séminaire et avait eu des résultats, qui s'est dit « putain, merde, en fait, c'était la réalité, je suis trop con », tu vois. Et, ouais, et ça lui a donné un déclic et aujourd'hui, il a quitté son job pour lequel il a travaillé à l'école pendant 15 ans et il a lancé un business, tu vois. Mais c'est quand même incroyable de se dire ça. Et ça me permet de revenir à une question que je voulais te poser tout à l'heure, c'est au niveau des objectifs. Je sais que tu mets aussi une importance particulière à l'équilibre dans ta vie, que ce soit sur ton physique, ta santé, ton couple, les amis, le business, et que tu t'es, on va dire, défini différents objectifs. Et tu me disais quelque chose qui peut paraître étonnant pour certains et inspirant pour d'autres. Tu me disais, voilà, moi, je suis quelqu'un, j'ai atteint mes objectifs. Sur les différents paliers de vie et les différentes catégories de ma vie. Et je trouvais ça super intéressant et je voulais qu'on puisse aborder ce sujet. Alors ma question est, quelle est ta perception des objectifs? Quelles sont les catégories dans lesquelles tu les intègres? Et voilà, comment tu te sens maintenant que selon ta perception en tout cas, tu as atteint la plupart de tes objectifs?
Ok, super intéressant. Déjà, je voudrais revenir sur cette notion d'équilibre parce que c'est vraiment... C'est aussi ça qu'on apporte, et c'est contre-intuitif des fois, mais c'est ça aussi qu'on apporte chez Papa In Shape. C'est que, en fait, si tu veux, on apprend aussi aux gars à prendre plus soin de leur santé, plus soin de leur sommeil, à faire de l'activité. Et au final, en fait, tu te dis, mais tout ça, ça prend du temps. Mais en fait, cet équilibre apporte plus de productivité dans tous les domaines, en fait. Et moi, Thomas et moi, tous les deux, on met vraiment beaucoup d'accent là-dessus, parce que on s'est rendu compte aussi avec l'expérience que le fait d'avoir, tu vois, 4 piliers de chaise, quand il y en a un qui merdouille un petit peu, tu en as toujours 3 autres aussi sur lesquels tu peux te reposer pour reconstruire le quatrième. On dit que si tu n'as qu'un pilier de chaise, s'il merdouille, tu es par terre, tu vois. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important que tu soulignes. Ensuite, pour les objectifs, donc je te disais, oui, j'ai atteint mes objectifs. Bon, après, j'ai atteint mes objectifs d'il y a quelques années. maintenant, j'en ai effectivement des nouveaux. Ce qui est important pour moi, c'est d'avancer, en fait. Pour moi, je me dis que si j'avance pas, en gros, et que je stagne, il n'y a pas de stagnation, en fait. Quand toutes les choses sur lesquelles tu ne mets pas d'attention, tu ne mets pas d'énergie... En général, elle commence à périr, tu vois. C'est un peu comme une plante, quand tu commences à plus lui donner à boire, à un moment, elle va se faner, elle va s'essouffler. Donc, j'ai toujours envie aussi de plus, tu vois, et j'essaie de trouver un équilibre au quotidien entre la gratitude que je ressens par rapport au fait d'avoir atteint mes objectifs et d'avoir ce que j'ai et d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui, et aussi, la petite frustration de ne pas avoir encore ce que je veux d'autre qui me permet de passer à l'action et d'avancer. Maintenant, pour comment se fixer un objectif, pour moi, la première base, c'est toujours de savoir ce que je veux et d'être sûr de ce que je veux. Parce que c'est pareil, c'est une base. Ça peut être ennuyant, ben, oui, je sais ce que je veux. Ah oui, est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu es sûr de le vouloir? Est-ce que t'as vraiment pris le temps de te projeter dans ce que tu veux? Est-ce que t'as pris vraiment le temps de voir qu'est-ce que ça allait changer dans ta vie? Ou est-ce que t'as des petits doutes en toi de « Ah ouais, mais si j'atteins ça, ouais, mais il y aura ça » et que tu le laisses de côté. Si tu laisses ce petit doute sous le tapis, t'es pas en train de vouloir vraiment ce que tu veux, t'es pas vraiment en train de vouloir te focaliser sur ce que tu veux parce que t'as des doutes. Donc, je dis pas qu'il faut pas avancer sans doute. Il y a des doutes, il faut avancer avec. Mais il ne faut pas les laisser de côté, tu vois. Moi, j'aime bien confronter, soulever. On aime bien, on parle de ça, on dit tout le temps qu'on soulève le tapis et on balaye ce qu'il y a sous le tapis. Parce que ce qu'il y a sous le tapis, ça revient toujours sur la table. C'est un peu ma phrase. Donc, première base, c'est de savoir clairement ce que tu veux et d'être sûr de le vouloir et d'aller un petit peu plus en profondeur. Parce qu'en fait, quand tu sais ce que tu veux, derrière, c'est très facile de créer du mouvement pour aller le chercher. Par contre, quand tu veux quelque chose, ouais, ce serait bien, j'aimerais bien. En général, il n'y a pas grand-chose qui se passe, tu vois.
Mmh. Ouais, complètement. Et un point intéressant, c'est que finalement, moi, j'ai un échantillon relativement large de l'ordre de plusieurs milliers de personnes que j'ai pu accompagner dans l'entrepreneuriat. Mmh. Mais ils sont, pas dire peu, mais une minorité ou tout du moins pas une majorité à avoir vraiment des résultats. Non pas parce que les moyens pédagogiques sont mauvais, les coachs sont mauvais ou autres, et ils le reconnaissent, les clients, c'est pour ça qu'on a quand même 100% de satisfaction, c'est qu'ils ne mettent pas en place les efforts nécessaires. Et ça, c'est la réalité. La quasi-intégralité des entrepreneurs ou même des individus ne sont pas forcément prêts à payer le prix des ambitions qu'ils désirent réellement atteindre. Toi, j'imagine que tu vis sensiblement la même chose dans une certaine mesure, alors peut-être dans d'autres proportions, mais avec justement des clients qui veulent justement perdre du poids et qui peut-être ne vont pas appliquer ce qu'ils doivent appliquer, ne vont pas manger ce qu'ils doivent manger, ne vont pas changer les habitudes qu'ils doivent changer, ne vont pas aller au sport autant de fois qu'ils le doivent ou avec la bonne intensité, peu importe, ou peut-être tout en même temps, et qui fait que finalement, bah, ils n'auront pas les résultats qu'ils devraient avoir s'ils appliqueraient scrupuleusement les différents conseils que vous leur partagez. Selon toi, qu'est-ce qui fait la réussite des individus ou l'échec, justement, dans ce cadre-là? Et qu'est-ce qui fait que certains vont aller jusqu'au bout des choses et vont tout appliquer jusqu'au dernier conseil, alors que d'autres ne vont pas le faire?
Bah, y a une notion qui est ultra intéressante, c'est entre pourquoi tu fais les choses et du coup ta motivation, ton envie d'aller la chercher et comment. Et en fait, déjà, en général, on a tendance à très vite se décourager par comment on va faire les choses. C'est-à-dire qu'on se dit « Ah, oh, je perdrais bien 10 kilos. Oh, ouais, mais il faut que j'arrête les glaces. » Petit clin d'œil, faut que j'arrête les glaces.
Faut que j'arrête. Tu peux pas m'envoyer des suggestions de glaces, celle-ci, et ensuite venir me dire ça ici.
Excellent. Non, mais tu vois, on se concentre sur qu'est-ce qu'il va falloir faire. Il va falloir que j'arrête les glaces, il va falloir que je me mette à courir alors que j'aime pas ça. Ouais. On se focalise sur toutes ces choses-là. Et du coup, on focalise pas notre énergie au bon endroit. Et en plus, on, au lieu de focaliser notre énergie sur ce qu'on veut, on focalise notre énergie sur ce qu'on veut pas du coup. Je veux pas faire du sport, je veux pas arrêter les glaces, etc. Et rien que ce simple fait de concentrer son énergie sur ce qu'on veut, ça apporte beaucoup plus de mouvement, d'énergie pour pouvoir aller chercher ce qu'on veut. Et aussi, en plus, souvent, quand on veut aller d'un point A à un point B et qu'on n'y a jamais été, on sait pas comment y aller. On croit savoir comment y aller, mais on sait pas. Parce que tant qu'on l'a pas fait, on ne sait pas. D'où l'intérêt d'aller se rapprocher de personnes qui l'ont fait. Parce qu'en général, pour aller d'un point A à un point B, on fait un plan. On fait un plan pour atteindre cet objectif. Mais notre plan est rarement celui qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. C'est pour ça que, bah, tu vois, pour moi, les business plans sur 5-10 ans, nous, on n'arrive pas à faire ça parce que ça bouge tellement, il y a tellement de choses. Et puis, en fait, on fait déjà des plans des fois à 3 mois, 1 an. Bien sûr, aussi, on a une vision long terme et des objectifs qu'on veut atteindre, bien sûr. Mais le plan, c'est compliqué. Et donc, quand tu te focalises sur comment et que tu focalises sur le plan, alors que toi-même, tu n'as pas le plan et tu ne sais pas comment y aller, c'est un peu perdu d'avance, tu vois. Donc, je focaliserai plus mon énergie sur ce que je veux, ce que ça va m'apporter d'être comme ça et de renforcer, de devenir la personne qui a ces résultats-là, plutôt que de focaliser sur quoi faire, sur comment le faire. J'ai un exemple en tête, et ça m'a créé aussi un truc de ouf dans ma tête quand j'ai vécu ça. C'est que, tu vois, quand j'étais pas plus petit, je devais avoir, je sais pas, 17, 18 ans, j'avais 18 ans, je venais d'avoir le permis. Il y a la nouvelle classe A qui est sortie, tu vois. Elle me faisait rêver, tu vois. Je rêvais d'avoir cette Mercedes classe A. Pour moi, c'était le goal, tu vois. Et donc, j'ai mis une photo de cette Mercedes au mur, parce que voilà, pour bien focaliser dessus, parce que j'avais déjà entendu avoir un vision board, etc. Je suis allé chez le concessionnaire, j'ai essayé la voiture, j'ai regardé combien ça coûterait, etc. Et je pouvais pas du tout, mais alors pas du tout me la payer, tu vois. Mais je savais que je voulais cette Mercedes et j'avais fait un plan pour ça, pour y arriver. J'allais faire telle action, telle action, telle action. Et du coup, j'allais pouvoir commencer à me payer la Mercedes. Et je crois que c'est peut-être 2 ans, 3 ans plus tard, je me retrouve à Paris, je sors de l'aéroport, je sors de mon avion, je monte dans ma voiture de location et je m'aperçois que je suis avec ma chérie juste à côté, que je suis en train de conduire la Mercedes qu'il y avait en photo chez moi, la même Mercedes que j'avais essayé, pour laquelle j'avais fait un point. Et là, je réfléchis et je réfléchis comment j'en suis arrivé là. Et je me dis, waouh, si j'avais... Enfin, j'aurais jamais imaginé que ça se passerait comme ça, tu vois. Jamais. Jamais. Et donc, quand tu as un objectif, ça ne sert à rien de se focaliser sur toutes les actions que tu n'as pas envie de faire. Focalise sur ce que tu veux. Et sur les petites actions déjà que tu peux faire, petit pas par petit pas, on mange un éléphant une bouchée à la fois.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je veux rebondir sur un dernier point. C'est mon avant-dernière question, c'est finalement par rapport au sport. Moi, je sais que le sport, par exemple, m'aide énormément. Par rapport voilà, me sentir mieux dans mon corps, avoir plus confiance en moi, etc., etc., mais aussi d'un point de vue énergétique pur. C'est-à-dire que j'optimise énormément de choses dans ma vie, jusqu'à même mon sommeil, ce que je mange, les calories que je mange, que je dépense, la façon dont je travaille, quand je travaille, à quel moment je travaille sur telle tâche, telle tâche, telle tâche. Enfin, voilà, j'ai catégorisé beaucoup de choses, j'ai structuré beaucoup de choses. Le sport en fait partie également. Mais tu vois, malgré ça et malgré ma connaissance et ma conscience des bénéfices, je sais aussi surtout que si, par exemple, je n'avais pas Kevin, que tu connais, qui est mon coach sportif, qui était même passé d'ailleurs dans un épisode du Déclic en vidéo sur la chaîne YouTube en particulier, qui était là dans ma salle tous les jours à 11h30 précise à m'attendre et que je le paye un certain montant tous les mois, relativement cher entre guillemets, pour qu'il soit là, bah clairement j'irai pas. Et c'est quand même, tu vois, c'est quand même un truc, je pense, ça doit être une problématique importante à laquelle vous avez réfléchi aussi. Et qu'est-ce que vous dites aux gens qui sont comme moi, qui peut-être écoutent ce podcast, et se disent, putain, mais je devrais me mettre au sport, je devrais manger healthy, je devrais ça, mais malgré ça, ils le font pas. Et pourtant, tu vois, c'est dans mon cas, autant manger healthy, calculer mes calories, me lever correctement à telle heure, avoir une vraie routine, ça, j'ai besoin de personne, j'ai besoin d'aucun effort pour le faire, ça fait partie de moi. Mais me déplacer, aller à la salle, faire mon entraînement sérieusement, avec une vraie intensité, seul, avec de la constance et régularité comme il faudrait le faire, je le ferai pas seul. C'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui est comme moi ou que vous donnez peut-être à vos clients qui sont dans ces mêmes situations pour qu'ils changent de paradigme et que ça se débloque?
Bah déjà, c'est première chose, encore une fois, qu'est-ce que tu veux, définir ce que tu veux, tu vois, et est-ce que tu as envie d'être la personne qui a envie d'aller au sport d'elle-même, tu vois. Déjà, si tu définis ça et que tu mets de l'intention là-dessus, en fait, j'ai envie de devenir cette personne qui aime aller au sport. Rien que ça, en termes d'intention, c'est autre chose, tu vois. Et petit à petit, en fait, tu vas mettre de l'attention là-dessus et tu vas devenir cette personne qui n'a pas besoin de quelqu'un pour se motiver à aller au sport. Non, c'est très bien d'avoir quelqu'un hein, qui t'accompagne, qui te booste. Je trouve que tu te dépasses beaucoup plus quand tu as un coach à côté. Mais déjà, c'est l'intention, tu vois. Pour moi, c'est primordial. Encore une fois, c'est un basique, mais est-ce que toi, à l'heure d'aujourd'hui, tu as l'intention de devenir quelqu'un qui va au sport de lui-même et qui aime ça, tu vois.
Ouais.
Moi, maintenant, c'est intéressant parce que moi-même, quand je me suis mis à la salle, j'ai pris un coach pendant un an et j'ai planifié toutes les séances avec lui. Et ce qui m'a permis, en fait, d'être assidu. Parce que moi-même, je n'avais pas forcément envie d'aller à la salle au début, tu vois. Surtout les premières fois, quoi. Tu vas la première fois à la salle, tu fais une séance de muscu, tu rentres chez toi, tu dors, le lendemain matin, tu te lèves, enfin, tu essaies de te lever, mais tu n'y arrives pas, parce que tu es plein de courbatures, c'est horrible, tu as souffert pendant, tu souffres après. Au début, c'est pas très, pas super agréable. Et puis, au final, le cerveau s'habitue et en redemande. Et c'est comme ça pour tout. Donc, tu crées de l'inertie avec un coach, et c'est ce qu'on fait aussi avec nos clients, on crée de l'inertie. Et on leur apporte en même temps toutes les bases sur le chemin et derrière en fait bah, l'habitude est ancrée, l'envie est ancrée et donc la discipline est ancrée et donc derrière ça suit quoi. Il faut avoir envie d'abord et c'est la première chose qu'on fait avec nos clients d'ailleurs, on définit ce qu'ils veulent avant même de commencer à faire des exercices, d'analyser leur alimentation. On prend un temps pour qu'est-ce que tu veux vraiment, tu vois. Qui t'as envie de devenir, qui t'as envie de devenir, qu'est-ce que t'es prêt à faire pour faire ça. Ouais. Basique, mais hyper important.
Et je pense que c'est ce qui fait la différence, parce que tu déplaces en fait l'utilité. Tu vois, je discutais dans le cadre d'une interview sur le podcast d'un ami, qui est Mohamed Boclet, qui a un super podcast, qui est champion du monde de lecture rapide, vice-champion du monde de mind mapping, etc. Il a lancé un livre, Connaissance illimitée, qui est un livre que je recommande d'ailleurs d'acheter à ceux qui nous écoutent, qui est vraiment excellent. Et il aide aussi les gens à apprendre à apprendre. Et donc, naturellement, il passe là actuellement dans le cadre de la lancée de son livre sur tous les plateaux télé, toutes les radios de France, etc. Et si tu veux, il aide de plus en plus aussi les étudiants, mais aussi les enseignants dans une certaine mesure, autour de tout ça. Et on parlait un petit peu de la scolarité, de l'école, moi qui ai plus de posture entrepreneur et dans quelle mesure, tu vois, j'aimais l'école. Et moi, j'étais vraiment un cancre à l'école, mais pas parce que j'étais mauvais ou débile intellectuellement, tout simplement parce que je ne trouvais pas de sens à ça. Et tu viens de l'exprimer pour le sport, par exemple. La première des choses que tu fais faire à tes clients, ce n'est pas un plan d'entraînement ou un plan de nutrition ou un je ne sais pas quoi, c'est donner du sens à la suite. Pourquoi est-ce qu'on va faire un plan de nutrition? Pourquoi est-ce qu'on va faire un plan d'entraînement? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Qui tu veux être réellement à la fin du processus, etc. etc. Et à chaque fois du coup que les gens vont être face à leur assiette, face à leurs chaussures, est-ce que je les enfile ou pas pour aller à la salle? Bah, ils vont penser à « Ok, est-ce que je veux ou pas atteindre l'objectif que je me suis donné ?» Et ouais, tu as tout à fait raison, et c'est là où je voulais en venir avec cette fameuse question. Ouais. J'ai une dernière question que je pose à chaque fois à celles et ceux qui nous écoutent. Parmi toute la valeur que tu as délivrée dans le cadre de cet échange, est-ce qu'il y a un truc, un élément que tu n'as pas encore partagé dans notre discussion qui a créé une transformation limite identitaire auprès de toi, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, littéralement un déclic, que tu as envie de nous partager? Ça peut être une situation, une citation, une frustration, une réussite, un échec, peu importe, ta carte blanche pour le mot de la fin.
Intéressant comme question. Yes, j'en ai partagé pas mal. Il y a eu une expérience, tu vois, justement, tout à l'heure, je disais que je voulais devenir directeur de Carrefour, tu vois. Et je me suis, comme dans tout, il faut se donner les moyens, je me suis donné les moyens, c'est-à-dire que je travaillais en job étudiant le week-end en caisse. En plus, j'avais réussi à obtenir un stage de manager là-bas. Et j'avais travaillé comme un malade de 5h à 17h. Et après, j'allais dans l'autre Carrefour pour travailler le soir en caisse, tu vois. Enfin, j'arrêtais pas. Et puis au moment où j'ai voulu justement passer, enfin avoir mon alternance pour être manager, et si j'avais mon alternance pour être manager, j'avais une chance de sortir directeur à la fin de mes études, ils ont fait traîner les choses, tu vois. Ils ont fait traîner les choses, et dans le même temps, j'avais commencé un petit peu à entreprendre, j'avais créé une première petite entreprise, auto-entreprise avant. Dans le même temps, j'étais en train de me dire que je n'avais pas du tout envie de faire ça. Je n'étais pas allé beaucoup l'année en cours l'année d'avant, etc. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vu que ça traînait et je me suis dit, en fait, je vais arrêter ça. Je vais arrêter ça. Ça ne me fait pas me sentir bien. J'arrête ça, en fait. Et du coup, je suis allé voir mon père qui, pour lui, c'était primordial de faire un master. Si je ne faisais pas un master, c'était une catastrophe. Et d'ailleurs, si je ne faisais pas un master, j'aurais pu un rond, etc., etc. Je suis allé le voir, je lui ai dit, j'arrête les études. Je ne vais pas, qu'il me réponde oui ou non, en fait, je ne vais pas y aller. Et je vais me concentrer sur l'entrepreneuriat. Ouais, au début, je vais devoir faire des petits boulots, etc., parce que je n'ai pas un rond. Mais je crois vraiment en moi beaucoup plus que ça. Et en fait, c'est ce moment-là, et il y en a eu un autre d'ailleurs derrière qu'on a vécu avec Sarah, ma compagne, mais ce moment-là où je me suis dit, en fait, je crois en moi, je crois en ce que je veux, et donc je vais arrêter de me laisser trimballer et je vais prendre ma vie en main, je vais prendre les choses en main. Ce moment-là, je pense, a été vraiment décisif parce que l'année qui suit, bien sûr, il y a eu un petit peu de galère financière, etc. Mais c'est là aussi où je me suis plus sorti les doigts pour y arriver, tu vois, concrètement. Parce que j'ai pris cette décision de croire en moi, d'y aller. J'ai osé prendre ce risque d'aller voir mon père. Pour moi, c'était quelque chose dont j'avais très peur, de lui dire j'arrête les études, etc. Je ne savais pas du tout ta réaction. Et tu vois, bizarrement, j'étais tellement décidé, j'avais tellement de conviction que quand je suis allé le voir et que je lui ai dit que j'arrêtais, il a dit OK. Il a compris qu'en fait, s'il voulait continuer à avoir une relation avec son fils, il ne pouvait que l'accepter. Tu vois. Mmh. Avec une telle conviction, ça a fait que ça a marché. Et tu vois, il y a eu d'autres moments comme ça. On travaillait avec Sarah j'avais repris un petit travail de vendeur. C'est là que j'ai de commercial au téléphone. Je voulais développer ces skills-là. Et en même temps, j'avais besoin d'un petit peu d'argent à ce moment-là. J'ai rencontré Sarah qui était manager de plateau, c'est elle qui m'a formé, etc. On s'est mis ensemble et à partir du moment où on s'est mis ensemble, ça devenait invivable au travail. Le N+1, tu vois, le patron de Sarah, chef de plateau, il l'appréciait pas du tout. Donc, il nous faisait vivre un enfer. Et un dimanche soir avec Sarah, on était dans le lit et on s'est dit « Waouh, on a passé un super week-end. On était détendus, tout se passait bien et pourtant, on a passé une semaine horrible. Et là, on a une boule au ventre d'aller au boulot le lendemain. » Pareil. On a cru en nous, c'est un peu ouf parce qu'on gagnait à 2 8000 euros par mois, tu vois, en tant que salarié, c'est énorme à l'époque. On est arrivé le lendemain, on a dit on s'en va, on est parti et on a tout quitté notre poste tout de suite le lendemain. Et là, on a commencé à se renseigner plus sur l'entrepreneuriat, etc. C'est là qu'elle connaissait Enzo, je crois que tu connais, qui faisait des vidéos avec... qui, comme quoi, il arrivait à gagner 10 000 euros par mois sur Internet et qui vivait en Thaïlande dans des super condos. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit « Ok, on s'en va ». Et on n'est pas juste parti de notre boulot. On a revendu toutes nos affaires et on est allé en Thaïlande parce que j'avais déjà conscience de ce que j'ai partagé tout à l'heure et en début, à quel point c'est important d'aller rencontrer les gens qui ont ce qu'on veut. Du coup, on a tout vendu. Avec cet argent, on s'est payé un voyage en Thaïlande. On est allé rencontrer Enzo. Et là, on a vu du concret. Il nous a présenté aussi des gens. En 48 heures, je me suis retrouvé avec un gars qui faisait 10 millions dans l'e-commerce. Et ça m'a cassé des barrières de malade mental. Quoi.
Clairement. C'est super intéressant les différents concepts que tu as partagés là. Et merci pour ça, en plus de l'épisode qu'on a partagé ensemble. Donc merci pour ce moment de partage, pour cet épisode. Je pense qu'il va en réveiller plus d'un. Et je suis super heureux d'avoir pu t'inviter pour un épisode du podcast.
Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un super moment. Donc, je te remercie beaucoup, Alec. Et puis, au plaisir de se faire un petit squash ou un petit padel bientôt.
Ça marche. Merci.